d'un gouvernement, en dehors de la politique. Et c'est ça qui est, pour moi, la chose dans les prochaines années qui est très importante. Et, à part, et, depuis, et après, on peut parler ensemble comme des égaux. En ce moment, on ne sont pas des égaux.
Stokrát prostřelený, potom chránila by tě má malá dlaň. Žádá ti víc od slabé ženy, to nemohl by snad ani D'Artagnan, kdyby si zrak tvůj přijít mým unavený pravou chvíli neuměl zvolit zbraň. Kdybys byl spánkem přepadený, kdybys byl vidinami obelhán, kdyby kůň tvého zběsilého žití postrácel cestou všechny podkovy, a kdyby se slovy, co nenasytí, pak mlčenlivý zbyl bys tu sám. Pak věř, má lásko, uprostřed vlnobytí věnec vavřínový na čelo tobě dám. Ať celým světem stokrát poražený zvítězíš v srdci jediné ženy, a místo štítu ochrání tě moje dlaň. Víc nechtěl by snad ani D'Artagnan.
Kdybych měl štít svůj stokrát prostřelený, potom chránila by mě tvá malá dlaň. Žádá ti víc od slabé ženy, to nemohl by snad ani D'Artagnan. Kdyby si zrak můj přijít mým unavený, v pravou chvíli neuměl zvolit zbraň. Kdybych byl spánkem přepadený, kdybych byl vidinami obelhán, kdyby kůň...
La chanteuse que vous venez d'entendre est une chanteuse tchèque, Marta Kubišová. Ne vous étonnez pas peut-être d'un drôle de style musical pour cet après-midi. Nous avons acheté des disques avec Viviane vraiment un peu au hasard. C'est du genre, vous entrez dans un magasin, vous voyez que c'est un nom qui a des consonances féminines. Vous demandez à la vendeuse « What kind of music it is ?» Elle essaie de vous répondre vaguement « Pop music tchèque ». On ne sait pas très bien ce qu'on achète, mais on achète histoire de voir. Alors, ce n'est pas toujours très évident, vous le remarquerez, mais on découvre les chanteuses tchécoslovaques en même temps que vous. Alors, la suite de notre parcours dans cette Assemblée européenne des citoyens, dans Onde Femmes Radio Zone 1 en 3.8, eh bien, c'est le parcours des commissions, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, après la plénière, nous nous sommes retrouvés dans différentes commissions qui chacune réunissaient beaucoup, beaucoup de monde. On était en moyenne entre 100 et 200 personnes dans chaque commission. Donc, ce n'était pas encore vraiment le lieu où on allait pouvoir papoter et faire connaissance. On a surtout entendu beaucoup de discours. Toi, Evelyne, tu étais dans la commission des minorités. Enfin, on va peut-être d'abord vite faire la liste de ces commissions, hein, pour que tout le monde sache quelles étaient les diverses commissions. Alors, il y avait une première commission qui était celle sur les droits de l'homme. Il y en avait une autre sur environnement, non, écologie
et économie et écologie.
Voilà. Ça fait deux.
Démilitarisation et politique de paix.
Trois.
Nationalisme et structures confédérales.
Voilà. Et il y en avait une cinquième et qui fonctionnait un peu parallèlement sur les structures de l'Assemblée.
Oui, au départ, elle s'appelait sur la société civile. Réflexion, qu'est-ce que c'est que la société civile ?
Voilà.
Et puis, il y avait une sixième commission un peu sauvage, la commission des femmes, qui n'aurait pas dû exister, qui devait être un peu une commission parallèle à la commission des structures. Et ils sont arrivés à nous la caser entre midi et deux heures, ce qui fait que ou bien on allait discuter avec les femmes, ou bien on mangeait, c'était à soi.
Comme disait l'autre, ça fait 8 ans que je participe à ces assemblées, et chaque année, les femmes font leur numéro. Et effectivement, une fois de plus, nous avons fait notre numéro. Et c'est nécessaire de faire chaque année notre numéro, puisqu'apparemment, on n'a toujours pas une place un peu plus importante qu'entre midi et 2h, ou dans une sous-commission, comme nous vous en parlerons tout à l'heure. Alors Evelyne, raconte-nous plutôt la commission, qu'est-ce qui s'est passé dans la commission des minorités ethniques ?
Alors, à mon avis, c'était une commission qui s'occupait de choses très importantes, puisqu'elle s'occupait du nationalisme et des structures confédérales. Moi, j'ai été plutôt dans une sous-commission après, qui s'occupait, ou qui parlait plus précisément du racisme, de la xénophobie, des chauvinismes qui renaissent actuellement, enfin, de toute forme de ces tendances nationalistes qui se reforment. En tout cas, se reforment dans les pays de l'Est, puisque elles avaient été plus ou moins étouffées ou congelées dans le système de la Pax Sovietica, comme ils l'appellent quelquefois. Alors effectivement, là, avec l'effondrement des régimes totalitaires ou enfin des régimes communistes dans les pays d'Europe centrale et de l'Est. Et il y a toute une série de tendances nationalistes qui réémergent et qui sont vues d'une manière assez préoccupée par les citoyens et par les gouvernements, par certains citoyens et par les gouvernements aussi, ou certains membres des gouvernements, parce qu'elles tendent, en tout cas il y a le danger, qu'elles désintègrent ces sociétés de l'Est. Donc on a parlé de ça. Est-ce que ces nationalismes sont libérateurs réellement ? Est-ce qu'ils sont synonymes de démocratie ou pas ? Est-ce qu'ils sont plutôt oppressifs ? Est-ce qu'ils sont dangereux ? Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus ? Par exemple, il a été dit plusieurs fois que dans ces... Je ne veux pas parler de l'Europe occidentale, juste pour le moment, où il y a aussi des problèmes de racisme. Mais plus particulièrement dans les pays de l'Est, apparemment, l'antisémitisme qui était très virulent avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui avait été plus ou moins gelé pendant la période communiste, ressort. Et bon, non, il est accompagné curieusement d'un sentiment aussi anti-arabe. Donc ça se combine. En général, ou bien on est antisémite, ou bien on est anti-arabe. Mais là, parmi son anti-arabe et antisémite. Bon, certains l'expliquaient, le sentiment anti-arabe, du fait que comme le régime communiste avait toujours soutenu la cause palestinienne et les arabes, pour beaucoup de gens, l'effondrement du système communiste signifie aussi arrêter de soutenir cette cause palestinienne ou les pays arabes. Donc ça, ça paraissait à beaucoup préoccupant. On a parlé aussi, ils ont parlé, disons, c'était beaucoup de gens de l'Est qui se sont exprimés aussi dans cette commission. Par exemple, des problèmes qui ressurgissent en Hongrie contre les tziganes. apparemment, les tziganes sont l'objet de tas de, d'accusations, de, d'exploitation. Et il y a même une plainte officielle, si je peux dire, apportée comme une mission par une membre de cette communauté tzigane de Hongrie. Parce qu'il avait été, on avait attaqué des enfants récemment en Hongrie. Il y avait aussi du côté occidental, alors on a parlé de la France, où il y a beaucoup de, enfin, il y a, comme dans d'autres pays, il y a une remontée du racisme. Alors, une des, de celles qui, c'était une femme qui s'est exprimée à ce moment-là, je crois qu'elle était d'origine d'Afrique du Nord, qui a dit que on assiste en France à une montée du racisme et qu'elle-même, elle avait beaucoup peur que la nouvelle Europe qui se construit soit aussi une Europe de l'exclusion, qui ne tienne pas compte de toute la population immigrée qui se trouve, qui vit, qui travaille actuellement en Europe. Parce que comme elle le disait très bien, il y a 10% des résidents actuels de l'Europe qui ne sont pas des Européens et qui n'en ont pas les droits civiques. C'est d'ailleurs apparemment à cause de ces problèmes qu'on commence, qui se tient actuellement en France une réflexion assez sérieuse sur le fait qu'on pourrait au fond distinguer deux concepts, la nationalité d'un côté et la citoyenneté d'une autre part. Et la nationalité pourrait être quelque chose pour les gens qui sont vraiment nés en Europe et la citoyenneté quelque chose pour tous ceux qui résident en Europe. Et tous ces résidents auraient droit à une sorte de carte de résident qui leur donnerait tous les droits civiques. Ils y auraient droit, après un certain nombre d'années, 3 ou 4 ou 5 années de résidence en Europe. Donc on essayerait de pour éviter les problèmes de... On dit souvent, si vous n'êtes pas nationalisé ou si vous n'êtes pas naturalisé, vous n'avez pas le droit de voter, vous n'avez pas le droit de... Alors, pour essayer de surmonter cette difficulté, essaye de séparer ces deux concepts.
Et c'est cette discussion qui a fait l'objet de la, du compte-rendu de la commission lors de la plénière. Donc, si
ça
je
a
me
été
souviens
une
bien,
des
c'était
recommandations.
Une des choses principales.
Oui. Et une des recommandations, ça a été d'essayer d'obtenir ça, des cartes de résidents qui donnent droit à tous les droits civiques aux résidents immigrés en Europe. On a parlé aussi des Corses dans mon sous-groupe, parce qu'il y avait une femme. C'était d'ailleurs beaucoup de femmes qui étaient dans cette commission, je dois dire, et les sous-commissions... Apparemment, les femmes sont très intéressées par ces questions de nationalisme, racisme et tu vois, du danger qui est sous-jacent à ce genre de force. Hein. Et il y avait une Corse qui disait que justement en Corse, après avoir vu combien le nationalisme corse était en même temps raciste, ils ont fondé un comité... anti-raciste pour essayer de lutter contre ces tendances en fait oppressives qui se trouvent des fois dans ces nationalismes de région. Parce que comme je disais au début, le nationalisme ne débouche pas nécessairement sur la démocratie, sur le respect de l'autre, etc. Quelqu'un a dit aussi quelque chose qui m'a... Enfin, plusieurs même ont dit qu'au fond, c'est maintenant que la Deuxième Guerre mondiale est vraiment finie. Avec la chute du mur de Berlin et puis tous ces changements à l'Est, mais qu'au fond, beaucoup des problèmes qui avaient commencé ou qui avaient donné lieu à la Deuxième Guerre mondiale n'avaient pas été vraiment résolus et ils réapparaissent maintenant. Par exemple, ces problèmes de nationalisme régionaux.
Alors maintenant, nous allons parler des autres commissions. Nous n'avons pas suivi ni la commission économie et écologie, nous n'avons pas suivi la commission sur les structures européennes. Nous avons suivi la commission des droits de l'homme, puisque c'était les droits de la personne, puisque c'était dans cette commission-là que l'on avait situé les droits de la femme. Alors d'abord, on a eu droit effectivement à toutes sortes de grands discours, enfin surtout Viviane, parce que j'arrivais tout juste à Prague à ce moment-là.
Bon, abrégeons d'ailleurs les grands discours.
Ouais,
alors effectivement,
crois.
On s'est retrouvé dans une commission des droits de l'homme qui concernait les femmes et les homosexuels. Donc on a mis la problématique de genre et la problématique des homosexuels dans le même panier. Alors premièrement, bon, nous on était un peu étonnés, mais moi je veux quand même... féliciter l'entrée des homosexuels dans cette scène-là. Moi, j'ai trouvé que c'était la chose la plus extraordinaire, dans le sens qu'elle était la plus dérangeante, c'est qu'effectivement, il y avait les homosexuels qui étaient là, à côté des gens qui défendaient leur nationalité, leur région, des gens qui défendaient la liberté du Kosovo, des Pays-Baltes, des Corses, etc. Les homosexuels défendaient aussi leurs droits en tant que minorité sexuelle, et c'était un moment très fort. Alors, on s'est retrouvés dans cette sous-commission. Alors, bien sûr, certaines ont protesté en disant non, quand même, il n'y a pas de raison que les femmes soient avec les homosexuels, même si les femmes souvent apprécient beaucoup les homosexuels et sont solidaires de leur lutte, mais les femmes, c'est pas une minorité sexuelle, c'est une majorité sexuelle, et puis en plus le problème des femmes, même s'il est lié à leur sexe, n'est pas lié à leur pratique sexuelle, et donc on ne devrait pas mettre tout dans le même panier, mais quand même on est resté ensemble et on a défini une certaine série de revendications pour les femmes, de droits fondamentaux à défendre pour les femmes, et les homosexuels ont aussi revendiqué une série de points, de droits qu'ils veulent leur être acquis.
Peut-être que je pourrais résumer en quelques mots les 5 propositions qui ont été faites en assemblée plénière au nom de la commission femmes, qui donc n'est pas celle dont vient nous parler Viviane, qui se réunissait, comme on vous l'a dit, entre midi et 2h, mais qui a bien sûr repris en quelque sorte ce qui faisait partie théoriquement de ces propositions de la sous-commission minorité sexuelle et femmes, pour en faire des propositions de la commission femmes. Et je résume rapidement, les 5 propositions consistaient à dire que tout d'abord, évidemment, elles attendaient de l'Assemblée présente, ici présente, qu'elles soutiennent et privilégient les expériences de femmes dans une future Assemblée. Et premièrement, en donnant une structure à l'Assemblée qui permette que les rencontres et les discussions soient facilitées dès le début et que les échanges d'expériences soient rendus plus importants, voire même, aussi importants, voire même plus importants que les discours faits par des gens au micro. Qu'une prochaine assemblée comme celle-ci soit consacrée, donc une plénière, une assemblée avec tout le monde impliqué, pas seulement les femmes, soit qui souligne les problèmes liés aux femmes ou les questions posées par les femmes au travers des différentes régions de l'Europe, et où différentes femmes interviendraient devant une large audience, pas seulement pour les femmes, parce que les femmes ne veulent plus continuer à être mises à part du contexte social général qu'aborde la conférence. Ça, c'était la deuxième proposition. Troisième proposition, qui se discute évidemment très souvent, c'est qu'il y ait une parité de 50% dans l'organisation et tout, à tous les niveaux de structure et de niveau organisationnel de l'Assemblée, y compris dans les gens qui interviennent. Quatrième proposition, qu'un réseau de groupes de femmes soit créé et qui soit utile, par exemple, à réunir de l'argent pour inviter les nombreuses femmes qui, comme beaucoup de femmes de l'Est cette fois-ci, n'ont pas pu avoir l'argent pour participer à la réunion de Prague cette année. Et cinquième, organiser une rencontre de ce réseau de femmes sous l'égide de la commission femmes dans les 3 mois à venir pour donner tout de suite une forme concrète à ces demandes. Et toutes ces demandes partant du point de vue que les expériences et les contributions que les femmes ont données sont ignorées dans une structure même comme celle de l'Assemblée européenne des citoyens, et qu'on peut le reconnaître quand même que depuis longtemps les femmes sont actives à créer des situations alternatives, et qu'une assemblée comme celle-ci ne reconnaissent pas les expériences significatives des femmes comme leur capacité à s'organiser de façon alternative, eh bien c'est en fait dénier les effets libérateurs que cela peut avoir pour nous tous et bien sûr pour la société européenne démocratique que nous cherchons à construire en tant que société civile.
Nous avons demandé à une des organisatrices de cette commission, Stella, qui vient de Bâle, de nous faire un bilan de ce travail.
Bon, il faut dire que j'avais un rôle spécial dans la préparation de ce truc. C'était d'être le convener de la commission femmes, c'est-à-dire c'était un peu ma tâche de contrôler et de voir si les thèmes que les femmes veulent avoir discutés sont introduits dans les commissions, dans le travail de l'Assemblée. Et que les délégations soient composées de manière juste, avec des quotas de femmes. Bon, ça n'a d'ailleurs pas été le cas. Certainement, il y a à peu près 30% de femmes, je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du côté de femmes, je ne suis pas très contente avec l'Assemblée. Il y a des thèmes qui ont été discutés, mais je ne sais pas encore s'ils vont être introduits dans la plénière qui aura eu lieu maintenant. ce que je trouve très dommage, c'est que ce genre d'assemblée, même si ça se veut un projet tout nouveau, sont toujours des assemblées d'hommes et d'hommes blancs et d'hommes blancs de, d'une couche sociale un peu élevée, disons, quand même ceux et celles qui peuvent se permettre d'aller à Prague. Attends, il faut faire une pause.
Hier soir, les femmes, on a vu, elles n'avaient pas, il n'y avait pas une commission femmes. Les femmes se sont retrouvées dans différentes, dans des sous-commissions de commissions. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que ça a été une relégation ?
Bon, ça c'était un choix. La commission femmes était toujours conçue comme commission qui est une commission en dessus de tout, disons, qui n'est pas une commission parallèle, de sorte à marginaliser les femmes qui doivent discuter de leurs soi-disant problèmes dans leur commission à elles. Mais on voulait introduire les questions que les femmes posent, parce que moi, c'est pas la question de la femme, c'est les questions que les femmes posent. On voulait les introduire dans toutes les commissions et ne pas avoir un travail à part, de sorte que dans la commission économique, on ne doit pas parler de pauvreté de femmes, mais c'est les femmes dans le groupe femmes qui en parlent. Ou bien dans la commission sur l'écologie, il ne faut pas parler de la responsabilité des hommes vers la nature, mais c'est les femmes qui parlent de comment ils pourraient combler ce que les hommes ont cassé, quoi.
Alors, les femmes, entre autres, étaient dans la commission des droits de l'homme. Elles se sont retrouvées comme une sous-minorité de la minorité sexuelle, était homosexuelle. C'était un peu une place très marginale. Et puis, on a assisté à quelque chose d'assez étonnant de ma part. C'était le refus de la part de cette commission de prendre en compte la demande des femmes polonaises de soutenir leur lutte par rapport à la loi qui va peut-être être votée contre l'avortement.
Ouais, ça, certainement, je trouvais très grave. Je m'y attendais d'ailleurs un peu, que même dans une assemblée comme ça, il y aura des hommes qui pensent toujours qu'il faut plutôt protéger la vie du pas encore né au lieu de respecter l'intégrité du corps de la femme et son droit de décider elle-même de ce qu'elle veut faire avec son corps. Ça, c'était pas la bonne expression en français. Bon, mais là, c'est aussi une question de structure de décision de cette assemblée, parce qu'on n'a vraiment pas, on n'a pas encore de mode comment on prend des décisions. Il y a de différents avis sur comment on prend les décisions. Il y a ceux qui pensent qu'on peut soutenir des résolutions, et ça, hier soir, dans la sous-commission femmes et gender. Là, c'était une proposition de soutenir une résolution que le droit de la femme à l'intégrité corporelle doit être respecté. Et ça, on ne l'a pas soutenu comme résolution, mais je ne sais pas, peut-être ça sera quand même soutenu dans une autre manière. Mais on n'a pas de structure de décision, ce qui est d'ailleurs très dangereux dans le tout de l'Assemblée, parce qu'on ne sait jamais qui, finalement, dira vers l'extérieur ce que l'Assemblée a décidé. Là, il faut d'ailleurs raconter une anecdote. Il y avait tous les jours des conférences de presse. J'y ai jamais été, parce que je n'ai jamais été invitée, même étant la coordinatrice de la commission femmes. Et puis, il paraît qu'il y avait même des journalistes qui ont demandé « Mais qu'est-ce que fait la commission femmes ?» Et j'étais évidemment pas là. Donc, on ne sait pas ce que de l'Assemblée est distribué à la presse, ce que les organisateurs et ceux qui sont dans le noyau interne disent sur ce que l'Assemblée fait. Donc, il y a un certain risque que tout ça sera instrumentalisé aussi par des hommes qui veulent faire leur carrière.
Est-ce que tu sais si ce qui avait été décidé dans la commission femmes hier, qu'on demande qu'il y ait une prochaine conférence de la Helsinki Citizen Assembly que sur le problème des femmes, est-ce que ce sera au moins proposé aujourd'hui en plénière?
Malheureusement pas. On en a discuté hier. Il y avait la majorité des femmes qui pensaient quand même c'est un peu trop de demander que les questions que les femmes posent soient le point le plus important dans une prochaine assemblée. Il y a des femmes qui ont dit le vieux argument que ça ne sera de toute façon pas voté, pas accepté par la plénière, donc on ne va même pas poser la question. Ça, c'est très dommage à mon avis. Mais bon, on pose quand même, on a la demande que les questions des femmes soient les plus importantes dans une prochaine assemblée. Ça sera présenté dans notre papier sur les futures structures de l'HCA.
Tu penses qu'il y a un avenir à cette assemblée ? Il va se passer vraiment quelque chose qui ne soit pas trop bureaucratique, général, plein de discours, comme un peu souvent pendant ces 3 jours ?
C'est difficile à dire. Moi, de toute façon, en ce qui me concerne moi-même, je vais encore suivre un peu ce qui se passe dans l'Assemblée. Je crois que le travail dans la commission femmes était quand même bien, de sorte que je me sens un peu soutenue. Et je vais essayer d'influencer la future structure de l'Assemblée dans une manière qui pourrait me permettre de dire c'est une Assemblée qui vaut la peine d'y aller. Mais il se peut que ça va dans une direction qui me fait dire dans une demi-année c'est un truc vieux, il n'y a pas de nouvelles pensées, il n'y a pas de nouvelles structures, il n'y a pas de sens que les femmes mettent trop d'énergie dans un truc comme ça. Il faut peut-être quand même encore de travailler seulement entre femmes.
Alors je tenais à reprendre ce qu'a dit Stella à propos de la proposition de soutien demandée à l'Assemblée pour les femmes polonaises. Effectivement, les femmes polonaises courent le risque d'ici un mois de voir leur droit à l'avortement supprimé par une nouvelle loi qui sera votée dans le Parlement polonais. Effectivement, depuis les changements survenus dans ce pays, l'Église catholique est réintervenue en force et réussit à persuader déjà, par exemple, les députés au Sénat de voter contre le droit à l'avortement. Alors dans cette Assemblée, nous avons rencontré 2 femmes polonaises qui nous ont expliqué leur vive inquiétude, évidemment, par rapport à ce sujet-là. Et elles nous ont fait la demande de soutenir un texte qu'elles auraient souhaité que nous envoyions au Sénat et à la Chambre basse polonaise pour intervenir en demandant le maintien du droit à l'avortement en Pologne. Et lorsque ce texte a été demandé, enfin, cette demande faisait partie de l'ensemble du rapport de la sous-commission minorités sexuelles et femmes. Et dans un premier temps, eh bien, la demande a passé inaperçue. Et puis, lorsque très formellement nous avons redemandé si la commission des droits de la personne était d'accord de soutenir cette lettre, cette missive, eh bien, tout à coup, se sont élevées toute une série d'oppositions, non pas sur le principe de soutenir la lettre sur laquelle on avait effectivement certains doutes, puisque comme l'a dit Stella, les niveaux de décision de l'Assemblée sont très peu clairs pour l'instant, mais en fait, les oppositions sont survenues sur le fond même, sur le droit à l'avortement. Et on a vu toute une série d'hommes représentant les Nations Unies, l'URSS, la Tchécoslovaquie se lever pour intervenir en disant « Mesdames, c'est contre votre bien-être l'avortement », enfin bref, s'opposant fermement au droit d'avortement comme tel. Et devant ce lever de bouclier, qu'on n'avait pas envie qu'il continue et qu'il le fossé s'approfondisse, eh bien, on a effectivement décidé qu'on ne voterait pas, on ne ferait pas de forcing dans la commission et que, ma foi, on s'en tiendrait au fait du rapport de la commission et que les femmes prendraient en charge, elles, le droit de distribuer ce papier. Mais c'est, je crois, assez significatif de voir que la commission des droits de l'homme, qui devait pouvoir respecter un minimum ce droit à la femme de décider ce qu'elle fait de son corps, n'a pas pu prendre un choix pareil, faire une décision pareille. D'ailleurs, il y avait eu aussi une levée de bouclier à propos des homosexuels sur leur droit à avorter. Leur droit à adopter des enfants. Un monsieur s'est levé en disant « Qu'est-ce qu'un enfant peut bien avoir fait pour mériter une chose horrible comme cela, d'avoir des parents homosexuels ?» qui forme un couple si contre nature, heureusement. On ne discute pas de ce qui est naturel et pas naturel dans une commission des droits de l'homme.
En fait, ces points ont été quand même rapportés en plénière par la rapporteuse de la commission des droits de l'homme, qui était une femme lesbienne et qui a parlé en tant que femme et en tant que lesbienne et qui a justement souligné ces points, l'avortement, la liberté de choisir pour les femmes polonaises et la liberté aussi pour les homosexuels d'adopter ou non des enfants.